Merci Seigneur pour cette grâce, n'est-ce pas, de pouvoir le célébrer et le louer. C'est l'été, il fait chaud, c'est normal, c'est aussi la grâce de Dieu. Les saisons sont de Dieu, n'est-ce pas? Seigneur nous rajoute avec ce qu'on fait, avec la nature. Mais on veut bénir Dieu. Ce matin, pour cette méditation, j'aimerais nous encourager à relire l'épître aux Romains. Cette semaine a été une semaine où le Seigneur m'a conduit dans cette lecture de cette épître aux Romains. Partagez quelques textes avec vous de cette épître. Quand on parcourt cette épître, on a des thèmes comme la justice de Dieu qui est reçue par la foi. L'évangile comme puissance de Dieu pour le salut, l'évangile et le peuple d'Israël, et enfin l'évangile et la transformation de la vie. Ce sont les thèmes qui traversent cette épître. J'aimerais lire avec vous le chapitre 1, à partir du verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand on lit ce chapitre, hein, c'est un chapitre qui introduit toute l'épître. Une épître qui est taxée de traits théologiques, c'est-à-dire que les grands enseignements de la foi sont dans cette épître. L'apôtre Paul a pris le temps d'écrire cette épître pour expliquer, parce qu'il est à Rome. Rome étant la capitale du monde civilisé de l'époque. Rome étant cette grande capitale de l'époque. Elle était cosmopolite avec le nombre et les diversités de culture qu'il y avait, mais on sait que c'était la culture romaine qui était la culture dite, la culture qui était au-dessus de toutes les autres cultures, tous les philosophes qu'on pouvait avoir dans cette Rome. Et l'apôtre Paul s'adresse à l'église qui vit là, dans un contexte comme celui-là. Et l'apôtre Paul écrit, poussé par Dieu, ses chapitres et ses quelques versets. Pourquoi j'aimerais qu'on mette l'accent sur ce texte de Romains 1, 15 à 17, parce que justement, nous sommes aussi dans une phase, n'est-ce pas, c'est l'été bientôt, il y a plein d'activités, il y a plein de lieux de vacances, c'est aussi le moment où si on le veut, ou qu'on le veuille pas de façon consciente ou inconsciente, on se relâche, et donc, appel à la vigilance, pendant que nous préparons notre entrée dans l'été. Appel à la vigilance. Il n'y en a pas beaucoup de témoignages, mais quelquefois, au retour de l'été, quelques-uns sont laissés sur le côté, malheureusement. Alors l'apôtre Paul, dans un contexte comme celui-là de Rome, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif vraiment plus du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » Et quand on lit à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, Il y a une forme d'encouragement à un certain service spirituel, hein, le service de Dieu. Hein. Quand on dit service de Dieu, certes, on parle de ce qu'on fait à l'église, mais vous savez que le service de Dieu est plus vaste que ce qu'on fait à l'église. Nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, partout où nous sommes. Parce que l'amour de Dieu veut que nous soyons au service de ceux que nous aimons et de notre prochain. Et Jésus a bien établi que notre prochain, c'est pas seulement ceux qu'on aime, c'est tous les humains. Nous sommes de cette génération-là. Alors, du verset 8 au verset 15, on a cette notion qu'on te tire hein, de ces sept versets. On a un esprit de reconnaissance. Hein. Quand on est chrétien, on est invité à avoir cet esprit de reconnaissance. Et les chants et les louanges que nous avons chantés ce matin nous ont invités à avoir cette reconnaissance à Dieu. Car finalement, c'est lui qui fait toutes choses. Et cela, on le voit au verset 8, n'est-ce pas? tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. La foi des Romains, des chrétiens de Rome, était reconnue dans le monde entier, n'est-ce pas? Et il y a une forme de reconnaissance. Et nous devons être reconnaissants pour la foi qui nous a trouvés, n'est-ce pas? Nous sommes parmi ceux qui ont eu ce privilège d'être rencontrés par la foi en Jésus-Christ, Dieu vivant. Il y a aussi un esprit qui se soucie d'autrui, de l'autre. Verset 9, verset 10. L'apôtre Paul dit ça aussi au verset 9, au verset 10. Dieu m'en est témoin, lui que je sais de tout mon être, en proclamant l'évangile qui concerne son Fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Dans ce service qu'il a, et c'est un modèle, l'apôtre Paul, il dit se soucier d'autrui, n'est-ce pas? Donc il y a ce souci que nous devons avoir pour autrui, même si nous sommes prêts à aller en vacances. Qui sait qui nous allons rencontrer pendant cet été? Qui sait qui nous allons rencontrer pendant cet été? Nous soucier aussi de nos familles, un peu plus, n'est-ce pas? Parce que voilà, la vie du train-train quotidien est tellement accélérée et que là, on a quelques semaines de ralentissement. Et c'est peut-être l'occasion de manifester un peu plus ce souci que nous avons de l'autre. Parfois, dans l'action, on n'a pas toujours le temps de le manifester, n'est-ce pas? Alors que les choses s'arrêtent, essayons d'être pratiques dans notre amour. Jacques, l'apôtre Jacques, dit que l'amour, ce n'est pas du bout de lèvres. L'amour, c'est quelque chose qui se vit, qui se pratique. Et là, nous avons l'occasion, alors que les activités seront ralenties, quelqu'un dit, encore de remplir, n'est-ce pas, notre crédit d'amour, de le remplir, de remplir. Un esprit bien disposé et soumis, un esprit doux, un esprit humble, un esprit fécond, un esprit obéissant, un esprit passionné, un esprit courageux. Et tout cela, on le voit dans les 7 versets qui précèdent le texte que j'ai lu. Et fort de toutes ces choses, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile, finalement, m'a façonné. Non seulement moi, mais vous qui êtes à Rome. Et je suis reconnaissant pour votre foi. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il s'adresse à des chrétiens dont il a félicité la foi qui est entendue dans le monde entier. Pourquoi l'apôtre Paul finalement leur dit « Moi, je n'ai point honte de l'évangile. » Comme si eux, ils en avaient honte. Alors que au verset 8, il a félicité leur foi qui est entendue dans le monde entier. Mais parce que l'apôtre Paul sait que notre foi est une grâce. Que c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Et nous la saisissons par la foi. Et cette foi a besoin d'être nourrie, cultivée, manifestée. Cette foi a besoin de manifestations visibles. C'est pour ça qu'il leur donne cet encouragement à travers sa vie. Moi, je n'ai point honte de l'évangile. Et il fait écho à quelque chose que Jésus lui-même a dit. À une parole forte de Jésus dans Marc chapitre 8, verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Que pouvons-nous conclure? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir honte? Finalement, ça veut dire confesser, proclamer, avec courage. Vivre sa foi avec courage. En fait, vivre ce qu'on est, n'est-ce pas? On est chrétien. Vivre simplement comme des chrétiens. Ça paraît banal, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Et l'interrogation pour nous, cet été, c'est « Je continuerai à vivre comme un chrétien. » Ça paraît peut-être pas un grand slogan, mais quand même. Mais quand même, nous serons, je ne sais pas, quelques-uns seront sur les plages, d'autres dans des lieux de loisirs, d'autres je ne sais pas. Mais gardez à l'esprit que quel que soit où vous serez, quel que soit ce que vous serez en train de faire, votre identité est en Christ. Et celle-là, vous devez la vivre et la manifester. N'est-ce pas? Je vous souhaite que ce soit un été agréable. Et quelquefois, ce qui est agréable, on dit ça nous grise, ça veut dire ça nous fait oublier qui nous sommes. Dans la souffrance, on se rappelle qui on est, parce qu'on sait que là, on a besoin d'un appui. On a besoin d'appeler quelqu'un au secours, parce qu'on voit que nos forces sont limitées et que la souffrance nous pèse tellement qu'on a besoin de solutions. Et là, on est peut-être plus enclin à activer la solution de Jésus-Christ. Quand elle ne dure pas longtemps, cette souffrance, ça va encore. Mais quand elle commence à peser, à durer, là, même on a l'impression que le chant qu'on a chanté tout à l'heure, finalement, reste un chant. Je crois en Jésus. Finalement, on a l'impression que c'est qu'un chant. Parce qu'au fond, est-ce que cette confiance, elle est encore là? Lorsque l'épreuve est là et qu'elle dure. Où es-tu, Seigneur? Et moi, le premier. Hein? Et moi, le premier. J'aime dire ça, Seigneur, manifeste-toi. Là, j'ai besoin de te voir, mon Dieu. C'est avec humilité, parce que je ne peux rien lui commander. Il est le Tout-Puissant. Mais en même temps, c'est mon Père. Et je peux lui dire, avec mes mots à moi, viens au secours. Et l'apôtre Paul le dit d'autant plus que lui, sa vie, a été marquée par tellement de choses. De joie, il a vu toutes ses vies se tourner à Dieu. Il a vu comment Dieu l'a utilisé pendant tous ses cycles de mission. Il a eu 3 cycles de mission. Pendant plusieurs années, il a vu des villages entiers se convertir. Il a vu même des autorités militaires et politiques se tourner à Dieu. Dans un monde païen, pagano-romain, il a vu cela. Mais il a aussi souffert des choses. Il a été emprisonné à Philippe, Actes chapitre 16. Il a été chassé de Thessalonique comme un malfrat. Il a été contraint de quitter Bérée parce que les chrétiens lui ont dit « Fuis, sinon ils vont te tuer ». Il a été ridiculisé à Athènes. On l'a pris pour un... devant ces grands philosophes de l'époque alors que lui parlait en tête. Oulala, d'où il sort celui-là? Mais il a osé dire ce qui était l'évangile. Il a été ridiculisé. Il a été pris pour fou. À Corinthe, on l'a traité de fou. Quelqu'un qui croit en la résurrection, c'est un fou. Il a été lapidé dans la région de Galatie. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que dans toutes ces situations, dans toutes ces circonstances, j'ai proclamé, j'ai confessé et j'ai vécu cet évangile de grâce en Jésus-Christ. Alors, rappelons-nous que l'apôtre Paul s'adresse à l'église de la capitale de l'Empire romain. Nous qui sommes de l'Île-de-France, n'est-ce pas? Nous qui sommes si proches de Paris, la capitale du monde, n'est-ce pas? L'été est rempli de belles choses dans cette capitale. Il faut en jouir de ces belles choses. Et hier après-midi, nous étions dans un beau parc, il faut le dire. Et c'était agréable d'y être. Mais ce que je dis là ne nous empêche pas de vivre ces choses avec joie et reconnaissance. C'est juste nous rappeler que nous avons une identité. Ne point avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Et ne pas avoir honte, c'est aussi annoncer, hein. C'est aussi proclamer, c'est aussi dire qui je suis. Et là, quelquefois, je parle d'un de mes voisins, à ceux qui sont là les mardis, un jeune homme charmant, très sympathique. Et notre amitié a commencé dès le déménagement dans cet immeuble. Et tout doucement, on a commencé à se familiariser, on a commencé à se dire nos prénoms, on a commencé par ce que vous voyez, ensuite on se tutoie et maintenant on s'appelle par nos prénoms. Et que même, voilà, on tous deux, on va avec les enfants le matin, on les dépose à l'école. Et là, on est parti tout doucement, sans qu'ils sachent ce que je fais dans la vie, mais juste un voisinage. Et puis là, dernièrement, au travers d'une conversation, finalement, il y a une question qui est sortie. Je dis, tu sais, je suis pasteur. Et il a fait ça, tous mes honneurs. C'est pas ça qui m'a marqué, c'est le fait que, voilà, là, c'était une bonne occasion de lui dire qui j'étais. Et je crois que quand il a lié ce que j'étais à tout ce qu'on a vécu depuis ces 9 mois, ça lui a parlé plus que si je lui disais très tôt, je suis pasteur. Je crois que c'est pas à dire ce qu'on est qui vaut, c'est vivre ce qu'on est. Si on le vit, et on doit veiller sur notre témoignage. Notre témoignage est quelque chose de précieux. Parce que si les témoignages sont touchés, après on a du mal à dire qui on est. Parce que ça va fausser le message qu'on va donner. Ça va fausser le message qu'on aura donné. L'apôtre Paul dit, Romains chapitre 1, verset 8, « Bien d'abord, tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Honnêtement, si on parle de ma foi que dans mon immeuble, ça me va. Déjà là. Pas du premier abord. Moi, je suis plutôt dans la conception que ce n'est pas ce qu'on fait tout de suite qui vaut. C'est ce qu'on fait dans la durée. Ce qu'on est dans la durée, là où on vit dans la durée. Et ça veut dire, on n'est pas là pour faire semblant. Notre témoignage n'est pas un témoignage artificiel. Non, je ne fais pas les choses parce que je veux que les gens sachent que je suis chrétien. Non, parce que je suis chrétien, justement. Je fais les choses comme un chrétien. Avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes défauts. Mais je suis chrétien. D'autant plus que, de plus en plus dans cette société, chaque frange revendique. Il semble que hier, sinon tout ce week-end, c'est une autre tranche de notre société qui revendique ce qu'elle est. Elle va faire une marche, peut-être qu'elle a faite hier, elle va continuer de la faire. Mais ils revendiquent tellement fort ce qu'ils ont. Et pourtant, c'est une minorité. Mais on dit que c'est une minorité qui est tellement persécutée qu'il faut la mettre en exergue. Moi, j'entends ça dans notre société. Je m'en plains pas parce que la société n'est pas chrétienne. Mais je voudrais en contraire le revers de la médaille qu'on laisse libre les chrétiens de vivre leur foi et de vivre ce qu'ils sont. Si les autres ont le droit d'être libres de vivre ce qu'ils sont, de le dire et de le manifester, pourquoi serions-nous, nous, contraints d'être dans le privé, de nous dire « votre foi, c'est quelque chose de privé ». Mais non, notre foi, elle fait partie de notre société. Elle doit se manifester, elle doit se voir, elle doit se vivre. Et je suis content qu'on continue encore lors des sorties comme ce qu'on a fait hier, qu'on ait prié sur le parking avant de partir et qu'on ait prié au parc avant de partir. C'est nous. Nous, notre vie, c'est aussi la prière, où qu'on soit. Et béni soient les monitrices qui montrent aux enfants que la prière, c'est partout. C'est pas parce qu'il y a du monde qu'on on a fait ce beau cercle. Il y avait des gens autour. Ils faisaient aussi leurs affaires. Hein. Et nous, on a prié. On a chanté. Ils avaient aussi leur chant, n'est-ce pas? On a chanté les nôtres. On a chanté un chant qui proclamait le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, je trouve que c'est courageux. Mais c'est même pas courageux, c'est normal. C'est normal. Mais la normalité est devenue le courage. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul dit, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car l'évangile est une puissance de Dieu. Le mot qui est utilisé, c'est le mot qui a donné dynamite. Hein, c'est le mot dunamis. C'est le même synonyme, dynamite. Car l'évangile est une dynamite. Elle explose positivement, n'est-ce pas? Elle explose positivement. Quand elle explose, elle conduit au salut, à la foi. Ce cœur qui se tourne à Dieu et qui reconnaît qu'est-ce qu'il était avant de rencontrer ou d'entendre parler de l'évangile. Certes, il y avait du bon, mais là, devant l'annonce de l'évangile, ce cœur réalise qu'en fait, il y avait plus de mauvais que de bon. Et que finalement, le chemin de Dieu en Jésus-Christ est le meilleur. Parce que celui-là, il y a la garantie de la vie présente, mais aussi la garantie de la vie éternelle. Et la foi dans tout ça, parce que le texte finit en disant, car le juste vivra par la foi. Cette foi, qu'est-elle cette foi? Cette foi, c'est une confiance en ce Dieu qui s'est révélé à nous. Cette confiance qui dit, ce Dieu, il existe, je ne le vois pas, mais je vois les manifestations de son existence. Ne serait-ce que ce rendez-vous qu'il a eu avec moi, ne serait-ce depuis le jour où j'ai entendu cet évangile, comment cela m'a marqué et comment mon cœur a été ému, comment mon intelligence a capté ces choses qui ne me disaient pas grand-chose avant. Je témoignais au repas fraternel à mon voisin de ce jour qu'avant ma conversion, j'avais un Nouveau Testament. Le tout petit, Gédéon, je ne l'avais jamais ouvert. Jamais, jamais. Et même quand je l'ouvrais pour le lire, je ne comprenais presque rien. Si, intellectuellement, je comprenais les mots. Mais qu'est-ce que ça apportait à ma vie? Je ne suis pas sûr que ça apportait grand-chose. Ça me faisait peut-être être encore plus religieux dans le sens où, voilà, il y a un Dieu quelque part, c'est tout. Mais quand il y a eu ce jour merveilleux où quelqu'un m'a fait arrêter à un moment donné de ma vie et qu'il m'a dit, il faut que tu entendes l'évangile et qu'il m'a prêché cet évangile, il m'a lu cet évangile et que mon cœur était d'accord que ça, c'est la vérité. Depuis ce jour, quand je lis ce texte, quand je lis la Bible, elle n'a plus la même portée. Désormais, elle me parle de façon concrète. Elle touche à des choses qui sont plus profondes que moi. Et ça, très tôt, dès ma conversion. Très tôt. Et c'est un signe. C'est un signe. Un signe qui ne vous trompe pas lorsque vous avez fait ce pas de la foi. C'est que désormais, la Bible ne vous sera pas un livre lointain. Il vous sera un livre proche. Et même quand vous allez lire des paragraphes compliqués, vous en tirez toujours quelque chose. Je me souviens que ma première Bible, c'était la moins chère. C'était une Bible Darby. Pour ceux qui connaissent Darby, c'est une version compliquée, puisque le traducteur a voulu garder le texte original. Or, le texte original en grec, en fait, et en hébreu aussi, parfois, on n'a pas la même syntaxe. Le sujet ne commence pas la phrase. C'est par le temps du verbe qu'on trouve le sujet, et le sujet peut être à la fin de la phrase. Donc, Darby, quand il a traduit, parfois, il a traduit littéralement. Donc, vous avez des phrases qui commencent, vous ne savez pas ce que ça veut dire, et le sujet est à la fin. Mais je comprenais ce que je lisais. Et pourtant, c'était la version Darby. Parce que Dieu fait ça aussi. Parce qu'on est dans une nouvelle naissance et il nous accompagne dans cette lecture. Alors, le juste vivra par la foi. La foi, c'est la confiance que ce livre, finalement, est la parole de Dieu. Que la Bible est la parole de Dieu. Et que c'est le livre qui vaut tous les autres livres du monde. Et que ce livre, il est précieux pour notre cheminement ici-bas. Cette persévérance, cette confiance, elle doit être à toute épreuve. Certes, on aura des hauts, on aura des bas. On est encore dans cette tente, comme dit l'apôtre Paul. On est encore dans cette humanité. On est encore aussi touché comme les autres humains par la maladie, par les difficultés, par les épreuves de la vie. À la différence que maintenant, nous savons aussi que Dieu existe et que nous pouvons nous appuyer sur lui, le faire confiance. Et cela passe par la prière, cela passe par l'Église, car l'Église est incontournable dans notre foi chrétienne. Elle est là aussi pour nous redire la parole de Dieu, mais aussi pour nous montrer comment manifester l'amour de Dieu en étant accueillants les uns envers les autres. C'est ce que j'ai déjà dit dimanche passé. En nous soutenant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en nous pardonnant les uns les autres, en nous accompagnant, bref, en nous aimant les uns les autres. C'est la mission de l'Église. Alors que cet été, que tu n'aies point honte de l'Évangile. Car l'Évangile, c'est ta vie. Que cet été, ta vie chrétienne soit au rendez-vous où que tu seras. Et que ce soit elle qui te donne de faire les choix de lieu, les choix d'endroit, les choix d'amitié, les choix de fréquentation. Il ne s'agit pas d'exclure des personnes de notre fréquentation. Il s'agit juste, quand on les a choisis, qu'elles sachent qui on est. Qu'elles sachent qui on est. Et qu'elles sachent que parce qu'on est celui qu'on est, il y a des choses qu'on fera avec, il y a des choses qu'on fera sans. Et ça, c'est important. Sinon, après, on peut se laisser conduire dans des eaux troubles. Et ces eaux-là, elles sont plus des poisons que des eaux qui nous donnent la vie. Le dernier texte que je veux lire pour finir cette prédication, c'est Romains, toujours dans cette épître, le chapitre 8. Avant ce chapitre 8, vous avez un beau chapitre 7. Il est beau, mais il est compliqué. Il est beau dans le sens où l'apôtre Paul fait toute l'expérience de ce que l'être humain ne peut pas faire. Il dit, je sais moi ce qui est bien en tant qu'être humain. Et je veux le faire, ce bien-là. Mais je n'y arrive pas toujours. Il dit, mais comment se fait-il que je sache ce qui est bien, mais que je n'arrive pas toujours à faire le bien? Bien pire, c'est le mal que je ne veux pas faire que je réalise, alors que je savais bien que ça ne fallait pas le faire. Il dit, là, je découvre la loi du péché. Il dit, je découvre la loi du péché. La loi du péché est plus forte que moi. Moi, je sais ce qui est bien, mais la loi du péché m'empêche de faire le bien. Et quelquefois, notre société matérialise la loi du péché. Parce que quelquefois, les propositions, les suggestions, les principes de notre société sont justement contraires au bien selon Dieu. Des fois, elles vont dans le même sens. Mais beaucoup de fois, elles vont dans le sens contraire. Et l'apôtre Paul a cette expérience misérable. Il dit, malheureux qui je suis, malheureux que je suis. Qui me délivrera de cette contradiction que je vis? Le bien, je le connais et je n'arrive pas à le faire constamment, régulièrement. C'est le mal que je ne veux pas. Et il dit, gloire à Dieu. Car Dieu a donné la solution. Christ est mort, mais bien plus, Christ est ressuscité. Et en Christ, désormais, je peux, avec sérénité, marcher constamment, régulièrement, dans le bien, selon Dieu. Même s'il m'arrivait de trébucher, mais ça serait plus comme avant. Ça serait plus comme avant. Ça serait plus comme avant. Alors, c'est là que vient le chapitre 8. Et moi, je voulais attirer notre attention à partir du verset 23, verset 30. Romains chapitre 8, verset 23, verset 30. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption finale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi attend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28, nous savons du reste que tout coopère, dans d'autres versions c'est tout conduit, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle merveille! Quand on met ce texte en lien avec Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce texte nous encourage aussi, alors que nous sommes dans cette phase de l'été, à nous souvenir, frères et sœurs, que notre espérance, elle est en Christ et que nous devons y persévérer, que nous devons l'attendre. Et parce que nous l'attendons, nous continuons de vivre comme des chrétiens, sans lâcher, comme on dit, sans lâcher la fée, en tenant ferme dans nos convictions, dans nos valeurs, dans notre marche, dans notre conduite. Parce qu'il dit, si tout était accompli, on n'attendrait plus. Mais parce que on attend le retour glorieux du Seigneur, alors on continue d'espérer, on continue de garder la flamme. On continue de courir la course. On n'est pas encore arrivé. On est dans le bon sens et on court bien déjà. Il dit, gardez le rythme. Gardez le rythme. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Et que dans ce chemin, bah oui, il y a des choses heureuses. Ce qui est bien dans le verset 28, c'est qu'il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et dans ce tout, il englobe ce qu'il y a de joyeux, ce qu'il y a de glorieux, ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il y a de merveilleux, mais aussi ce qu'il y a de douloureux, ce qu'il y a de difficile, ce qu'il y a de contraignant, ce qu'il y a de lourd. Mais il dit, parce que vous êtes connus de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'épître aux Éphésiens, le texte dit que Dieu connaît chacun de nous par son nom propre. Par son nom propre. Donc Dieu, nous connaissant chacun de nous par notre nom propre, il sait ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, comment il va nous conduire, comment il ne va pas nous lâcher, comment il va nous soutenir. Même si c'est à nous à faire, lui il veille. La Bible dit qu'à l'Éternel ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Que Dieu nous aide. Que pendant cette période qui s'ouvre à nous, nous souhaitons tous que nous soyons bénis, que nous vivions des moments heureux, que ce soit des moments de restauration, de repos, et que nous puissions dans toutes ces choses dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que par rapport à ce verset, il faut aller en contre-courant d'un trait de notre culture française, on dit que nous, Français, nous sommes des râleurs. Ça va bien, on râle. Ça va mal, on râle. Il fait froid, il fait froid. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait pas chaud, il fait pas chaud. Ce texte nous dit parfois, oui. Parfois, oui, on a cette liberté d'exprimer nos émotions, nos sentiments. Mais faisons attention. Trop le faire aussi, quelquefois. Ça nous impacte nous-mêmes, notre psychologie déjà. C'est pour ça le texte dit, rends gloire à Dieu. Qu'il fasse chaud. Oui, tu peux juste dire, il fait chaud, mais après, qu'est-ce que tu peux faire contre la chaleur? À part chercher, je ne sais pas moi, un centre commercial pour être au frais, ou si tu as du frillon chez toi, mets ton climatiseur si tu en as. Mais ça ne résout pas la situation parce que le thermomètre, il va rester à 29. Donc, prends acte que la température est celle-là et fais ce qu'il faut faire quand la température est à 29 degrés. Fais pas aussi comme s'il faisait 15 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Tu as 29 degrés et tu fais des travaux lourds. Ça ne va pas le faire. Soyons sages. Il y a une sagesse dans ce verset. Il y a une sagesse dans ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Que cet été, vous puissiez, nous puissions le vivre avec reconnaissance. Dans les bons aspects que nous aurons devant nous, comme dans les aspects qui peut-être ne seront pas toujours au rendez-vous, mais que nous puissions dire gloire à Dieu. Car toute chose vient de toi. Même si c'est vrai que quelquefois, nous attirons aussi le malheur à nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous ressemblons à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit pourquoi Dieu fait tout ça? Parce qu'il veut que nous soyons à l'image de notre frère aîné, à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. Alors que ta vie, que ma vie, que le thème, que le but que je donne à ma vie, c'est d'être comme Jésus, plein d'amour. On a vu cela, comment il accueillait, comment Jésus-Christ était un homme comme nous. Il était Dieu à la fois, mais nous a montré dans son humanité ce que Dieu veut que les hommes vivent. Une vie remplie d'amour, de compassion. Et le texte, les évangiles sont traversés par l'expression « épris de compassion, épris de compassion, épris de compassion ». Que nos cœurs soient des cœurs qui sont modélés par l'amour de Dieu. Je vois de plus en plus une société violente, une société à fleur de peau. Une société où les conflits se déchaînent en un quart de temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Hier, nous étions dans ce parc et il y avait un groupe à côté de nous et il y avait des bagarres. Et des dames bien adultes, hein, c'était même pas des petits jeunes, qui étaient prêtes à se prendre le chiot. Je dis, oulala, dans un espace comme ça où on vient se détendre. Et notre société est comme ça. Et si nous sommes comme ça, Quelle espérance! Mais nous ne sommes pas comme ça. Parce que Christ vit en nous. Parce que l'Esprit de Dieu est disponible. Parce que Dieu veut que nos vies soient changées pour que justement le monde voit qu'on peut vivre autrement. Mais c'est par Jésus-Christ. Amen. Prions. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs et moi avec. Je prie pour notre Église. Seigneur, conduis-nous. Merci pour ce temps de vacances pour plusieurs d'entre nous. Ce temps de l'été. Donne-nous de le vivre avec reconnaissance. Simplement. Que nous puissions le vivre en continuant d'être ce que nous sommes, des chrétiens et des chrétiennes, des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Que les valeurs, que les choix, que les options soient celles d'un chrétien et d'une chrétienne. Pas moins, pas plus. Tu nous aideras, s'il te plaît. En tout cas, que tu puisses bénir tout ce que nous avons comme projet et que ce soit un temps agréable. Et si d'aventure, il y a des choses difficiles, que ta présence nous porte notre Dieu, que ta présence nous fasse du bien, et que toi, tu les tournes en des choses positives, car tu es le Dieu tout puissant. Rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Mais c'est notre confiance en toi qui est la marge de manœuvre. Alors donne-nous, Saint-Esprit, de garder cette confiance en toi. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.